Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi sommes-nous nés? Et pourquoi mourons-nous? Et entre-temps, que devons-nous faire? Sommes-nous nés pour nous amuser seulement? Pour apprendre des choses? Quel est le but de la vie? Ce sont là des questions importantes dans la vie, mais il y a plus. Chacun de nous se demande souvent que faire en ce bas monde? Comment être heureux? Car nous cherchons tous à être heureux. Mais savez-vous quel est le secret du bonheur? C'est vrai, chaque personne a sa propre définition en ce qui concerne le bonheur. Chaque personne pense être heureuse à sa façon. Mais comment vraiment être heureux? Comment pouvez-vous vraiment dire « je me sens à l'aise »? Ce sont là des questions simples, peut-être, mais à la fois très difficiles, car nous avons tous notre nature charnelle. Eh bien, la plupart du temps, ce qui est important est contraire à notre nature charnelle. Laissez-moi expliquer cela. Le Christ, à travers l'Évangile, nous a donné des instructions importantes. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Mais que signifie aimer les uns les autres? Le Christ nous a dit d'obéir au commandement de Dieu. Mais que signifie obéir au commandement de Dieu? Le Christ nous a dit que nous devons toujours être agréables à Dieu. Mais que signifie être agréable à Dieu? Non, ce n'est pas un jeu de mots que je fais. Le fait est qu'il y a quelque chose dans la vie, la chose la plus importante dans notre existence, que la plupart des gens négligent. À travers la Bible, je répète, le Christ nous parle de l'amour de Dieu. Le Christ nous parle comment Dieu nous aide. D'accord? Mais aussi à travers la Bible, il y a un message extrêmement important. Et ce message nous permet de comprendre pourquoi nous sommes nés. Ce n'est pas pour nous amuser seulement. Ce n'est pas pour vivre et gagner de l'argent seulement. C'est pour faire quelque chose d'autre. Savez-vous quoi? Eh bien, le Christ a résumé ceci dans un seul verset qui ne se trouve pas dans les évangiles. Un verset qui n'est même pas mentionné dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, sauf à un seul endroit, indirectement. Ça vous étonne? Dans Actes, chapitre 20, l'apôtre Paul parle justement de son départ vers Rome. Ensuite, il donne des instructions aux siens. Ensuite, il nous dit quelque chose. Notez-le. Actes, chapitre 20. Je prendrai mon temps aujourd'hui parce que je vais vraiment vous expliquer ce sujet d'une façon très claire. Paul était très ému. Il recommande à tous comment vivre en tant que chrétien. Et Actes, chapitre 20, il dit au verset 31, « Et maintenant, dit-il, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, à donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne désire ni or, ni argent, ni vêtements de personne. Vous savez-il vous-même, 34, verset 34, acte 20, vous savez vous-même, dit-il, que ses mains, les mains de Paul, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voyez-vous, il prépare déjà quelque chose. Mais à quoi prépare-t-il? Paul est en train de partir pour Rome. Il sait qu'il ne verra plus le visage de ses amis-là. Alors, il leur dit en quelque sorte, il résume en quelque sorte le but de sa vie et ce qui va se passer. Et ensuite, tout en formulant ses projets, il dit, je vous ai montré, verset 35, de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Voyez-vous, ça commence déjà petit à petit à vous donner l'idée. En travaillant. Pourquoi travaillez-vous? Quel est le but du travail? Pour gagner l'argent? Pour vous amuser? Pour subvenir à vos besoins? Tout ça c'est bien, mais pourquoi travaillons-nous? Continuons. Il dit, c'est en travaillant ainsi, dit-il, qu'il faut soutenir les faibles. Encore une autre phrase intéressante. Et se rappeler, et maintenant nous venons au but, et se rappeler les paroles du Christ, qui a de lui-même. Voyez-vous, la phrase que Paul cite ici du Christ n'est cité que dans cet endroit. Nulle part ailleurs dans les évangiles, vous ne trouvez cette phrase du Christ, cette parole. Et qu'est-ce que c'était cette parole? Qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, il y a, acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes frères et mes sœurs, cette phrase, cette déclaration, cette révélation révèle le but de la vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une instruction contraire à notre nature humaine. Et bien maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai posé la question, pourquoi êtes-vous né? Vous êtes né pour donner. Je vous ai posé quel est le but de la vie. Le but de la vie, de la part de nous tous, c'est de donner. Servir. Voilà le mot, servir. D'une façon générale, nous n'aimons pas servir. Nous ne nous rendons pas compte qu'en servant, nous donnons quelque chose. Mais c'est ça la chose la plus importante. Comme le Christ a dit à travers l'Évangile, le plus grand d'entre nous, c'est celui qui sert le plus. Servir, c'est contre la nature humaine. Et pourtant, servir, c'est la base même de l'existence humaine. Dieu est venu pour que nous puissions, nous, avoir la vie éternelle. Le Christ est venu servir. Il a été le plus grand serviteur. Il a dit, rappelez-vous, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai. Dans la vie, vous recevez quelque chose, vous êtes content. Et pourtant, la plupart du temps, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous êtes plus content que ce quelqu'un. Ça vous fait plaisir à vous. Et c'est vrai, vous le savez fort bien, c'est vrai. Et vous avez une joie qu'on ne peut pas exprimer lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un. C'est la base même du sacrifice du Christ. Il a donné sa vie afin que nous puissions, nous, un jour, avoir la vie éternelle. C'est ce même Christ qui a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous disposé à servir dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, avec vos amis, dans la société? Lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose, êtes-vous le premier à vous faire volontaire? Ou bien est-ce que vous regardez autour de vous s'il y a quelqu'un d'autre qui ira d'abord servir plutôt que vous? Souvent dans la vie, voyez-vous, nous voulons nous écarter en quelque sorte. Nous attendons à ce que les autres fassent ce que nous pouvons nous-mêmes faire. Rappelez-vous, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, est-ce que vous avez la sagesse ou la présence d'esprit d'être le premier à offrir vos services? Je vous pose la question. Si ce n'est pas le cas, vous ne comprenez pas vraiment le secret du bonheur. Rappelez-vous, je répéterai cette phrase du Christ, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Essayez-le. Souvent, peut-être même, la plupart du temps, la personne que vous servez ne vous dira pas vraiment merci de tout son cœur, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la réaction de la personne que vous servez qui importe. C'est cette joie intérieure de pouvoir donner quelque chose. Servir, c'est donner. Servir, c'est anticiper les besoins de quelqu'un d'autre et de faire votre part. Dans le ministère que je fais depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai remarqué souvent que si on a besoin de quelque chose au sein de l'Église, ce sont toujours les mêmes personnes qui offrent le service. Pourquoi? Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont là vraiment converties, pour ainsi dire. Si vous êtes, vous, de l'autre groupe, pourquoi n'allez-vous pas essayer ce que je vous dis maintenant? Si vous avez besoin vraiment de comprendre ce que je dis, regardez autour de vous. S'il y a un besoin quelqu'un, quelque part, que vous fassiez quelque chose, soyez le premier à offrir vos services. Vous verrez la différence. Servir, c'est quoi? Là encore, je définis ces mots parce que, voyez-vous, c'est important. Servir, c'est vraiment venir à l'aide de votre prochain. Et ce faisant, vous aimez votre prochain comme vous-même. Le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voudriez que vos besoins soient répondu. Qu'on prenne charge de vos besoins. Dans ce cas-là, faites de même pour les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Ce faisant, vous servez. Anticipez les besoins. Et comprenez toujours, ayez toujours en tête, qu'en fin de compte, lorsque vous donnez quelque chose, lorsque vous servez, c'est vous qui êtes le plus béni. Eh oui! C'est ce que le Christ a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Christ ne ment pas. Dans votre fort intérieur, vous serez toujours plus heureux en donnant qu'en recevant. Et maintenant, parlons de servir à nouveau. Ça, c'est le sujet. Mon sujet est de servir et comment servir. Quelles que soient vos capacités, quelle que soit votre santé, quel que soit votre âge, quelle que soit votre compréhension, vous pouvez toujours chercher à savoir comment mieux servir. Autrement dit, comment être plus heureux. Autrement dit, comment vraiment avoir la joie dans le cœur, puisqu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La plupart du temps, vous savez, nous faisons notre part et nous sommes satisfaits. Mais ce n'est pas tout. Autrement, juste faire ce que vous devez faire, ce n'est pas suffisant. Chacun de nous peut faire davantage. C'est encore une autre vérité que le Christ nous révèle dans la Bible. Examinez-vous vous-même. Écoutez, prenez le temps, soyez honnêtes. Lorsque, à la fin d'une journée, vous commencez à évaluer la journée, pouvez-vous dire vraiment que vous avez fait tout ce que vous devriez faire? Ou bien, il y a beaucoup de choses que vous avez laissées de côté? Ou encore, pouvez-vous dire vraiment que, après avoir fait tout ce que vous avez fait, vous auriez encore pu faire d'autres choses pour servir? Je suis sûr que la réponse est oui. Il y a beaucoup de choses que vous auriez pu faire. Vous avez peut-être vu quelqu'un qui avait besoin de votre aide. Vous êtes passé outre. Vous avez vu quelqu'un qui, peut-être, vous pourriez lui parler un petit peu parce que il se sentait dans le découragement. Vous auriez pu lui parler un petit peu, lui tenir la main s'il le faut. Ah ben non, vous ne l'avez pas fait, vous avez dit peut-être dans votre esprit, ce n'est pas important. Mais si, c'est important pour la personne. Voilà pourquoi je vous dis, à la fin d'une journée, chaque jour, demandez-vous, est-ce que j'aurais pu faire davantage? Dans n'importe quelle direction. Et vous verrez que la réponse est affirmative. On peut toujours faire davantage. C'est cela dont le Christ a parlé dans Luc chapitre 17. Dans une parabole que beaucoup de gens comprennent mal. Cette petite parabole nous explique justement ce que je suis en train de vous dire. Le Christ a parlé de servir. Le Christ a parlé des devoirs de chaque individu. Une chose est certaine, nous devons toujours être reconnaissants pour les services qu'on nous rend. Quel que soit le service qu'on nous rend, que ce soit dans une famille, dans un restaurant, n'importe où, lorsque nous disons merci, nous devons vraiment dire merci de tout notre cœur. Donc ça doit être sincère, pas seulement en parole. Nous devons avoir une compréhension de nos responsabilités. Si j'ai un travail, si je fais bien mon travail, si quelqu'un me dit merci, eh bien, c'est normal parce que j'ai fait mon travail. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est pourquoi le Christ ici donne une parabole intéressante. Il parle justement d'un cas. Il y a un serviteur, Luc chapitre 7, 17, verset 7, Luc 17, 7, il dit, « Qui de vous, dit-il, ayant un serviteur qui laboure ou fait les troupeaux, lui dira, dit-il, quand il revient de son champ, approche vite et mets-toi à table. » Autrement dit, un serviteur, son travail, c'est de servir son maître. Là encore, le Christ donne un exemple. Dans les paraboles, vous ne cherchez pas chaque mot pour dire, voilà, donc la totalité. Chaque parabole a une leçon à nous communiquer. Ici, le Christ nous communique une idée. Le serviteur doit faire sa part, le maître doit faire sa part, et ce faisant donc, les choses s'accomplissent confortablement. Donc, ici, il dira, approche vite, mets-toi à table. Verset 8, ne lui dira-t-il pas plutôt, dit-il, au contraire, dit-il, prépare-moi à souper. C'est normal, puisqu'il vient, puis le serviteur est là pour préparer le souper. Donc, le serviteur fait son travail. Ensuite, dit-il, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, dit-il, toi, tu mangeras et tu boiras. Donc, ça, c'est, je dirais, la vie normale. Et c'est normal. Il faut dire, bon, merci, tout ça, ça va très bien. Mais le Christ ajoute quelque chose. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui était ordonné? Comprenez bien, on doit toujours avoir de la reconnaissance. Le Christ donne ici un exemple. Nous devons toujours dire merci, apprécier le service qu'on nous rend. Mais le Christ nous montre ici que si vous avez fait votre devoir, ce n'est pas suffisant. C'est ça le secret. Certes, ici, les mots peuvent être difficiles à comprendre en français, mais si vous mettez ici l'idée ensemble, le Christ dit que si quelqu'un fait sa part, nous devons être reconnaissants, d'accord, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a plus, il y a davantage que cette personne ou ce quelqu'un aurait pu faire. Il dit, verset 10, voilà la clé, Luc 17, 10. Vous de même, maintenant, il s'agit de vous, il s'agit de moi. Quand vous avez fait tout ce que vous avez, qui vous a été ordonné, ah, regardez-moi maintenant, nos obligations, nos devoirs, ma part de responsabilité au bureau, ou n'importe où, dans la maison, en famille, lorsque j'aurai fait tout ce que j'aurais dû faire, et alors, il dit, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est étrange. Ce que je voulais faire, je le fais. Comment est-ce que je peux me considérer comme serviteur inutile? Nous avons, dit-il, fait ce que nous devrions faire. Voilà le secret. Parce que avec tout ça, vous pourriez faire davantage. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans chaque acte que vous faites, dans votre vie, d'une façon générale, demandez-vous, est-ce que je peux faire davantage? Est-ce que je peux prier davantage? Est-ce que je peux aider davantage? Est-ce que je peux aimer davantage? Est-ce que je peux servir davantage? Est-ce que je peux sourire davantage? Est-ce que je peux encourager quelqu'un davantage? Parce que nous faisons tout ça à notre façon, mais c'est davantage qui est dans notre pouvoir. Je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, si vous me comprenez, mais ce message est extrêmement important. Car c'est le but même de la vie, c'est le secret de votre bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont malheureux. Ils sont toujours tournés contre sur eux-mêmes. Autrement dit, ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'intéressent pas aux autres. Ils veulent se satisfaire à leurs besoins. Ce n'est pas vraiment le secret du bonheur. Même encore si vous faites votre part pour aider les autres, tâchez de voir si vous pourriez faire davantage. Et vous verrez la différence entre le bonheur, je dirais, et la vie, comment dire, la vie routinière. Autrement, la vie devient une routine, c'est vrai. La plupart du temps, voyez-vous, nous gaspillons notre temps en pensant à nous-mêmes, à nos propres besoins. Et c'est normal, nous devons penser à nos propres besoins. Mais si vous pensiez davantage aux besoins des autres, vos propres besoins seront accomplis. Vous les aurez. Dieu vous bénira. Dans Matthieu chapitre 25, le Christ nous donne une autre parabole, et dans cette parabole, nous pouvons voir l'importance de servir une fois encore. Une chose est certaine, chaque personne a ses propres talents. Je ne peux pas faire certaines choses comme une autre personne qui est davantage qualifiée. Donc, vous servez dans vos capacités. Regardez de même dans le ministère, au sein de l'Église. Il y a qui sont des ministres, d'autres qui sont des diacres, d'autres qui sont peut-être des membres laïcs, mais ça n'a pas d'importance. Chacun peut faire quelque chose. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce quelque chose de la meilleure façon possible et en plus. On verra la différence. Matthieu chapitre 25, dis-je, le Christ explique cela. Je vais prendre mon temps, je vais prendre la parabole entière. D'habitude, voyez-vous, je cite et puis je passe. Non, cette fois-ci, je vais, dans ce sermon, car la chose est tellement importante, je vais prendre la parabole entière, expliquer verset par verset, et vous montrer qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Matthieu 25, verset 14. Le Christ a dit, il en sera de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs. Là, il y a donc encore une double entendre en quelque sorte, c'est que voyez-vous, le Christ parle de lui-même, qui ira et qui reviendra. Mais ici donc, cette parabole donne les deux phases de cette vérité, que ce soit dans la vie quotidienne ou bien en symbolique, en symbole, au figuré. Le fait est que le Christ parle ici d'un homme qui part en voyage, il appelle ses serviteurs, il leur remet ses biens. Il donne 5, verset 15. À l'un, deux à l'autre, un au troisième. Vous direz pourquoi. Pourquoi telle et telle personne a reçu 5? La réponse est dans la phrase suivante. Il donna à chacun selon sa capacité. Voilà le secret. Dieu ne s'attend pas de vous tous ce que vous ne pouvez pas donner. Vous donnez peut-être ce que vous vous donnez de la meilleure façon possible. C'est tout ce qu'il faut. Il se peut que vous ayez seulement reçu 2 talents. Vous devez rendre quelque chose qui est valable ou bien au même niveau que 2 talents, et non pas 1. Ce n'est pas une question que Dieu soit injuste, pas du tout. Dieu est toujours juste. Dieu connaît vos capacités. Dieu sait si vous pouvez produire 5, ou bien 2, ou bien 1. Voilà pourquoi nous avons tous des talents différents. Ensuite, et que je continue au verset 16, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, fit valoir et gagna 5 autres talents. Mais comment? Comment est-ce qu'il a fait ça? En travaillant, en servant. N'oubliez pas, travailler ainsi, c'est toujours servir. Donc, il a fait quelque chose. Il n'a pas cherché à gagner juste pour lui-même, il a cherché à aider, à servir. Donc, il a fait sa part. De même, celui qui avait 2 talents, verset 16, 17, il en gagna 2 autres. Donc, ces 2 individus ici ont fait leur part, ont été des serviteurs utiles, et non pas des serviteurs inutiles. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'en avait pas, ou bien n'avait reçu qu'un seul, verset 18, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Pourquoi? Il ne voulait pas travailler, il ne voulait pas servir. Il voulait sûrement être sûr que ce qu'il a, il ne perd pas. Eh bien, j'ai un autre secret pour vous. Si vous avez peur de perdre ce que vous avez, vous perdrez. La seule façon de conserver ce que vous avez, c'est de faire valoir ce que vous avez. Les talents, vous les perdez si vous ne vous en servez pas. Il faut vraiment travailler avec ce que vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les 2 premiers ont fait leur part. Le dernier, pour des raisons tout à fait personnelles, égoïste, et vain, je dirais, n'a pas fait sa part. Il a caché l'argent. Verset 19, longtemps après, qu'est-ce qui se passe? Le maître revient et demande compte à ses serviteurs. Alors, celui qui avait reçu 5, verset 20, apporte 5, autre talent. Gardez-vous la récompense. La récompense du Christ, du maître, est la même que celui qui avait reçu 2 talents. Autrement dit, que vous ayez 5 talents ou 2 talents, si vous avez fait votre part, vous avez la même récompense. Dans ce sens que vous avez, vous, ce que le Christ a promis. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apportant les 5 talents, et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Il va y avoir la récompense, verset 21. Le maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Regardez-moi cette phrase. Bon et fidèle serviteur. C'est là notre but. Nous devons tous chercher à être de bons et fidèles serviteurs. car il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi qui es fidèle, dit-il, en peu de choses, je te confierai beaucoup. Peu de choses quand? Ici, en ce bas monde. Je te confierai beaucoup quand? Dans la joie où tu vas entrer. Autrement dit, entre dans la joie. C'est quoi la joie? La joie de ton maître. C'est la récompense qui nous est réservée lorsque nous serons ressuscités. Lorsque nous aurons la vie éternelle. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, nous aurons notre récompense. Ensuite, il y avait celui qui avait reçu deux talents. Il apporte deux autres talents. Le Christ lui donne exactement la même, lui fait la même promesse. Il dit, c'est bien, dit-il, ce bon et fidèle serviteur, verset 23. Alors, tu as été fidèle, dit-il, en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est intéressant. Et ça, c'est notre but, voyez-vous. Ne vous dites pas, mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Peut-être pas grand-chose, mais ce que vous pouvez offrir avec ce peu de grand-chose que vous avez, vous aurez la même récompense, autrement dit, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ensuite, revenons à l'autre. Et voilà maintenant le caractère humain. Voilà maintenant comment nous, entre guillemets, nous raisonnons. Et nous avons toujours des excuses. Il est facile de trouver des excuses. Il est même très facile. La chose la plus facile au monde, c'est de trouver des excuses. Parce que ce faisant, vous mettez le blâme sur quelqu'un d'autre. J'ai pas fait parce que. J'ai pas voulu servir parce que, ainsi de suite. Ça, c'est pas le secret. Alors, voilà, celui-ci vient et les arguments qu'il donne, les idées qu'il a, les excuses qu'il présente sont tout à fait idiotes. Ce sont des excuses qui n'ont même pas de base. Regardez voir ce qu'il dit. Il dit, je savais que tu es un homme dur. Comment? Vous montrez dans la Bible que le Christ est dur. Vous montrez dans cet exemple que le serviteur, que le maître était dur. Le maître donne à chacun selon ses capacités. Comment est-ce que ce serviteur juge son maître en disant que tu es dur? Voyez-vous, c'est des excuses qui sont tout à fait idiotes. Il dit, un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Quelle idiotie. C'est idiotie. Écoutez, c'est une excuse qui n'est pas valable. Il dit, et que tu amasses là, tu n'as pas vanné. Si c'est le cas, cet homme, ce maître est un homme fantastique, quelqu'un qui est fantastique, vous devez davantage le respecter. Alors j'ai eu peur, mais pourquoi avoir peur? Si ce maître vous a donné un denier en disant fais valoir, pourquoi dire je sais que tu es dur et puis j'ai eu peur? Voyez-vous, tout ça, une fois que vous commencez à raisonner de cette façon-là, vous perdez tout. Et votre raisonnement est déréglé et vous commencez à accuser alors que vous êtes vous-même le premier coupable. Je suis allé, dit-il, verset 25, cacher ton talent dans la terre. Vous savez ça? Ce petit membre de phrase, c'est peut-être votre excuse. J'ai entendu souvent des gens qui me disent, écoutez, monsieur Appartient, moi je n'ai rien à offrir, qu'est-ce que j'ai? Je suis pauvre, je suis âgé, j'ai pas de talent, j'ai pas fait beaucoup de collège ou d'éducation, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est des excuses. Dieu demande de vous ce que vous pouvez donner. Donc, quelles que soient vos excuses, il y a toujours quelque chose que vous puissiez faire, et c'est ça que Dieu vous demande. Voilà pourquoi cet homme-là, voyez-vous, il dit, « Eh bien, je ne savais pas que faire, j'ai caché ton argent. » Le Christ n'a pas dit, « Entre dans la joie de ton maître. » Oh non. Il dit, « Son maître lui répondit, verset 26, « Serviteur, quoi, méchant et paresseux. » Comparez ça avec bon et fidèle serviteur, avec les autres. Les autres, il les appelait bons et fidèles. Ici, il appelle ce serviteur méchant et paresseux. Mes frères et mes sœurs, prenez le temps d'étudier ça. Êtes-vous méchant? Êtes-vous paresseux? Vous direz, oh, pas beaucoup, mais ce n'est pas une question, pas beaucoup. Souvent, dans la vie, vous pouvez faire davantage, vous êtes paresseux. Souvent dans la vie, vous êtes méchant car vous pouvez faire quelque chose, vous laissez aux autres faire la chose que vous pouvez vous-même faire. Voilà pourquoi je dis ça, ça nous touche directement ces choses-là. Ensuite, Christ lui fait voir l'idiotie de cet homme, il dit, tu savais que je moisson ou je n'ai pas semé, ou bien que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait au moins faire quelque chose, ou même mettre l'argent en banque, au banquier, que je puisse retirer quelque chose. Vous voyez, autrement dit, le raisonnement de cet homme est totalement vain. Quel a été le châtiment? Pas entre dans la joie de ton maître, au contraire. C'était tout à fait le contraire, voyez-vous. Il dit, ôtez-lui donc, dit-il, ce qu'il a. Voilà comment vous pouvez perdre ce que vous avez. Et donner à quelqu'un qui a des talents. Ensuite, une autre vérité qui sort. Regardez voir, dans une parabole comme ça, on peut en tirer tellement de leçons. Vous direz, mais pourquoi est-ce que celui qui a déjà 10 recevra-t-il encore quelque chose de plus? Parce que celui qui a 10, il a fait quelque chose avec ce qu'il avait. Ou bien celui qui avait 5, il a fait quelque chose avec ce qu'il avait. Alors le Christ nous donne une fois encore la réponse. Car, dit-il, on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il sait comment faire valoir ses talents. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, si vous faites votre part, si vous faites valoir vos talents, vous aurez davantage, vous aurez davantage, vous aurez davantage. Voilà pourquoi les gens diront, mais il a déjà beaucoup, il en reçoit davantage. C'est normal. Ça, c'est une loi que le Christ a établie. Plus vous faites votre part, plus vous êtes récompensé et plus vous avez davantage. Continuons. Et donc, il en aura davantage. Mais dit-il à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Autrement dit, si vous ne faites pas ce que vous devez faire avec le talent que vous avez, vous le perdrez. Commencez-vous à comprendre. J'ai pris mon temps avec cette parabole parce que je fais souvent allusion ou bien référence à cette parabole, mais je voulais vous montrer la base même de cette parabole, que Dieu est toujours juste, que ce que vous avez, c'est ce que vous pouvez travailler avec. Non pas ce que quelqu'un d'autre a. Ce que vous avez, c'est nécessaire pour vous d'entrer dans le royaume et de jouir dans la joie de votre maître. C'est tout ce qui compte. Ne regardez pas ailleurs, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous dites pas, oh, j'aurais voulu avoir le même talent que celui-ci. Vous perdez votre temps. C'est comme les excuses que ce serviteur méchant donnait. Faites votre part avec reconnaissance. Et soyez reconnaissant à Dieu pour toutes choses. Vous serez heureux, vous serez récompensé, et Dieu sera satisfait. Et vous aurez ainsi la satisfaction de savoir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, car vous aurez fait votre part en tant que serviteur. Nous sommes tous serviteurs. Personne en ce bas monde est maître. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ qui soit maître. Nous sommes des serviteurs. Et c'est une joie que d'être serviteur du Christ. L'apôtre Paul explique cela d'une façon différente. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, là encore j'ai pris ça par le passé, mais je voudrais l'examiner dans ce même contexte. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 12 du corps de l'homme, du corps humain, du vôtre et du mien. Certains d'entre nous sont beaux, élégants, jeunes, d'autres au contraire sont malades, peut-être âgés, peut-être pas si beaux que ça, n'importe. Mais chacun de nous avons un corps humain. Ce corps humain s'use, et c'est normal, c'est la vie. Mais ce corps humain que nous avons dispose de membres. Chacun de nous possède les mêmes membres, plus ou moins développés, d'accord. Nous avons des yeux, normalement parlant, une bouche, des oreilles, des mains. Donc, chacun de ces membres a une responsabilité. Chacun de ses membres est un serviteur. Oui, c'est la même idée. Mes mains ont une part à jouer dans la vie, dans ma vie. Si mes mains font leur part, eh bien, je peux mieux avancer dans mon métier, dans ma vie. Mais si mes mains ne me servent pas, dans ce cas-là, je suis handicapé. De même, de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, et de tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, d'une façon extrêmement claire, et vraiment, c'est bon de voir comment il explique, il dit, verset 12, 1 Corinthiens 12, 12. Car, dit-il, auparavant, il parlait dans le ministère, les différents rangs, mais il dit, car, dit-il, verset 1 Corinthiens 12, 12, le corps est un. Nous sommes tous un en ce qui concerne le corps. Et à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Voyez-vous, c'est ça, cette unité dont je vous parle. Il faut que tous les membres du corps, ensemble, fassent leur part. Et alors, nous sommes complets. Mais si un des membres, pour une raison ou pour une autre, ne fait pas sa part, nous sommes handicapés. Il dit, si, dit-il, tous les membres font leur part, dit-il, ne font pas leur part, mais tous forment un seul corps, ainsi en est-il, dit-il, du Christ. Nous avons tous, en effet, dit-il, verset 13, été baptisés dans un seul esprit. C'est quoi ça? Lorsque vous vous repentez de vos péchés, lorsque le Christ paie la mort de vos péchés, dès ce moment-là, vous êtes candidat à la vie éternelle en recevant le Saint-Esprit. Donc, voilà l'espoir que nous avons. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps du Christ, l'Église. Et ensuite, dit-il, dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, autrement dit, une fois que vous avez l'esprit du Christ, vous êtes un avec le Christ. En Christ, il n'y a pas juif, il n'y a pas grec, il n'y a pas des races, il n'y a pas de nationalité. En Christ, nous sommes un. On parle à nouveau de cette unité qui résulte de nos services, des services que nous rendons. Si nous, en tant que serviteurs, nous faisons notre part, nous sommes baptisés, nous sommes un avec Christ, dès ce moment-là, il n'y a plus de différence en ce qui concerne les degrés, ou bien les races, les nationalités. Nous sommes tous un. C'est cette unité que nous cherchons, cette unité nous vient lorsque nous faisons notre part en tant que serviteurs. C'est profond, c'est beaucoup plus profond que nous pensons. Il dit ainsi, verset 14, 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi dit-il, ensuite il décrit d'une façon tout à fait logique et claire, facile à comprendre. Le corps, dit-il, n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous avez un corps avec plusieurs membres. Elle était si le pied disait, je ne suis pas une main. Voyez-vous cette jalousie qui commence. Alors dit-il, je ne suis pas du corps. Mais si. Bien que ma main ne fasse pas ce que mon pied peut faire, les deux sont quand même une partie du corps. Il n'y a pas de jalousie. Mes yeux ne peuvent pas dire, bon, je ne peux pas entendre, donc, puisque je ne peux pas entendre, donc je ne suis pas du corps. Au contraire. Mes yeux ont leur responsabilité, mes oreilles ont leur responsabilité, et tous ensemble, nous faisons un seul corps. Et l'apôtre Paul explique ceci d'une façon très claire. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Ça, c'est la base, voyez-vous. Et il explique. Ensuite, il dit même, verset 18, ça c'est important peut-être pour vous, peut-être pour moi. Parce que parfois on dit, oh, vous savez, moi, je sais absolument rien. Je suis malade, je suis vieux, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'éducation, j'ai rien. Donc, je suis bon en rien. Vous savez, ce bon en rien vous met directement sur la voie du désespoir. Alors, le Christ ici parle en parabole de cet exemple qui est verset 18. Maintenant, dit-il, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. C'est Dieu qui a fait ainsi. Et dit-il, verset 22, mais bien plutôt, dit-il, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, dit-il, sont nécessaires. Eh bien, bon, vous n'avez rien, vous êtes nécessaire. On ne peut pas faire grand-chose, vous êtes nécessaire. On n'a pas beaucoup de talent, vous êtes nécessaire. Voilà. Une fois que vous comprenez ça, vous avez une meilleure vue en ce qui concerne la vie. Vous regardez la société, vous regardez ces Richards, ces Nababs. Vous regardez ces hommes importants, ou bien des rois, je ne sais pas quoi. Vous les regardez comme s'ils étaient quelque chose de formidable à comparer à vous. Non, ce n'est pas du tout ça. En réalité, voyez-vous, vous êtes nécessaire. Avec le peu que vous avez, ou bien avec le rien que vous avez, mettons, vous êtes nécessaire. Et c'est ça que le Christ dit dans cette parabole. Ne soyez jamais découragés. J'ai encore hier soir reçu un téléphone de quelqu'un qui était tout à fait découragé. Il me dit, appartient, je ne peux absolument rien faire, je suis bon à rien. Et je tâche de lui expliquer que quand même, le fait même que vous soyez en vie, vous êtes bon à quelque chose. Vous êtes bon pour montrer par votre exemple que vous avez le courage de lutter contre vos problèmes. C'est vrai, quelqu'un verra le courage que vous avez, ça va aider. Vous allez servir cet homme ou cet individu parce qu'il peut voir par votre exemple que vous luttez. Cet exemple suffit déjà pour que vous soyez, vous, non pas un serviteur inutile, mais un serviteur bon et fidèle. Eh oui, par votre exemple, vous pouvez sauver quelqu'un. Par votre exemple, vous pouvez inspirer quelqu'un. Par votre exemple, vous pouvez vraiment aider quelqu'un à entrer dans le royaume. Vous, qui pensez peut-être n'avoir absolument rien, vous direz, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous ne voyez pas ce que vous avez, mais Dieu le voit. Tout ce que Dieu vous demande, faites de votre mieux pour servir, quelles que soient les circonstances, avec ce que vous avez. Une fois que vous avez appris cette base, alors, mes frères et mes sœurs, vous connaissez qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je dis, c'est un ensemble fantastique. Ça m'a vraiment frappé lorsque je pensais à ça ce matin. Je n'ai jamais eu, je dirais, la compréhension de ces passages comme je l'ai maintenant, parce que j'ai compris, je les ai mis tous ensemble. Et je commence à comprendre vraiment la base, que quel que soit vos talents, faites-les valoir. Peut-être que ces talents ne valent rien en ce qui vous concerne. Mais comme j'ai dit, un petit sourire peut aider quelqu'un. Un petit mot de soulagement peut sauver la vie de quelqu'un. Et vous avez fait votre part. Vous avez été serviteur utile. Si vous pensez ainsi, vous aurez une meilleure compréhension de vos responsabilités dans la vie. Commencez-vous à comprendre. Romains chapitre 12. Je prendrai mon temps aujourd'hui à expliquer ce sujet, et je vois que je ne finirai pas, mais parce que c'est extrêmement important, parce que nous devons comprendre une fois pour toutes, car c'est ici la raison pour laquelle souvent beaucoup d'entre nous ne sont pas heureux. Je rencontre tellement de gens qui se plaignent. Et toujours, c'est pas nous n'avons rien, nous sommes pauvres, et ainsi de suite. Donc, ce genre d'attitude ne vous aidera pas. Ce genre d'attitude vous écartera du royaume de Dieu. Si vous n'avez rien, vous avez quand même l'espoir du royaume de Dieu. Donc, c'est déjà quelque chose, travailler avec cet espoir. Exprimer cette joie d'avoir l'espoir du royaume de Dieu, d'entrer dans la vie éternelle. Rien que ça suffit déjà pour vous donner courage. C'est pourquoi je dis, pensez à cela. Et quels que soient vos problèmes, avec cet espoir, avec cette compréhension, vous avez une vie tranquille. Et vous aurez la récompense du Christ en disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul ici explique la même chose d'une façon différente un petit peu, mais toujours la même idée. Je prends maintenant peut-être, je ne sais pas où commencer exactement. Oui, verset 6. Autrement dit, on parle toujours du même corps, qui est un seul corps, etc. Mais verset 6, il dit, puisque nous avons, Romains 12, 6, des dons différents, maintenant ici question des dons, mais toujours, c'est la même idée. Selon comme ce que le Christ a accordé, la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a des dons de prophétie l'exercent selon l'analogie de la foi. Autrement dit, vous avez un talent d'expliquer, de prêcher, bon, faites-le de votre mieux. Celui qui s'attache au ministère, un ministère du reste signifie servir, et qu'il le fasse. Et celui qui enseigne de façon à expliquer facilement que les autres comprennent. Je paraphrase. Verset 8. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez, il y a certaines personnes dans l'Église qui ont assez d'argent. Peut-être c'est tout ce qu'ils ont. Eh bien, qu'ils le fassent avec libéralité, comme l'apôtre Paul dit. Quoi qu'il y a toujours, qu'on puisse toujours donner l'avantage en ce qui concerne les talents. Que celui qui préside le fasse avec zèle, verset 8. Autrement dit, quelle que soit la tâche que vous avez, faites-la avec sincérité, avec force, avec détermination de réussir. Celui qui pratique la miséricorde, c'est quoi ça? Mais tout d'un coup, change de sujet. Oh non, on ne change pas de sujet. On parle des talents. Et dans ces talents, tout d'un coup, l'apôtre Paul met quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tous. Quel que soit votre âge, quel que soit votre talent, quel que soit votre nationalité, vous pouvez toujours vous pratiquer la miséricorde. Voyez-vous, il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas ce que c'est que la miséricorde, vous le savez fort bien. Donc, quel que soit le cas, ayez la miséricorde. Et ce faisant, vous serez récompensé. Mais pratiquez cette miséricorde avec joie, sincérité de cœur. Commencez à comprendre. C'est magnifique lorsqu'on compare, lorsqu'on commence à comprendre cette vérité. Le danger, c'est que nous nous comparons souvent aux autres. Cessez de le faire. Quelles que soient les circonstances, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous au Christ. Vous serez toujours inférieur, d'accord, mais tâchez de faire ce que le Christ a fait. Suivez son exemple, en aimant, en servant, et vous verrez comment vous serez heureux. Lui qui a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, j'ai l'intention de prendre... Durant ce sermon, je vois que je ne pourrai jamais le faire, mais au moins je vais commencer à vous donner des exemples dans la Bible. Des individus qui ont vraiment servi. Et ce faisant, je répète, je continuerai la prochaine fois, vous verrez comment vous pouvez servir quel que soit vos talents. Prenez l'exemple d'une veuve. Une veuve, en général, est une personne qui a besoin d'aide, de compagnie, parce qu'une veuve est seule. Alors, comment est-ce qu'une veuve peut vraiment servir? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Beaucoup de choses, mais plutôt que d'entrer dans les détails, laissez-moi vous donner un exemple que le Christ lui-même a donné dans la Bible, dans Luc chapitre 2. Voyez-vous, une veuve, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, et pourtant, dans l'exemple que le Christ donne, cette veuve, c'est elle qui encourage les autres. Luc chapitre 2. Lorsque le Christ est né, il y avait des prophéties qui s'accomplissent. Et entre autres, il y a une femme, une veuve. Regardez son attitude. Luc chapitre 2, verset 39. Dans ce même temps, dit-il, je ne sais pas si c'est Luc. Oui, Luc chapitre 2. J'ai mal tourné les pages. Alors, verset 26, Luc 2, 26. Y avait-il une prophétesse, Anne? Ensuite, elle était fort avancée en âge. Donc, ce n'est pas une question d'être jeune, belle, tout ça, avancée en âge. Elle avait vécu pendant donc longtemps seule, en tant que veuve. Et elle servait Dieu, verset 37, elle servait Dieu nuit et jour. Comment? Qu'est-ce qu'elle peut faire cette femme? Dans le jeûne et dans la prière. Comprenez-vous? Cette femme, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Jeûner, dans la mesure du possible, et prier. Vous pouvez toujours prier pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours prier pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Ce faisant, vous avez fait votre part. Ce faisant, vous êtes un serviteur utile. Ce faisant, Dieu apprécie vos efforts. Voyez-vous, cette femme-là, elle priait nuit et jour. Ensuite, quand elle a appris donc la nouvelle que le Christ est venu, elle était vraiment donc enchantée, étant survenue de Dieu, elle aussi, cette même heure, elle louait Dieu parce qu'elle attendait le Christ, elle attendait l'autre du Christ, elle comprenait la Bible. Donc elle a appris que le Christ est né, et elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Une veuve qui a ainsi, je dirais, rempli de bonheur, de courage des gens autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, une veuve? Beaucoup de choses. Entre autres, elle peut prier. Et vous n'avez pas besoin d'être veuve pour prier. Lorsque vous entendez que quelqu'un est malade et que vous connaissez, priez pour cette personne comme si cette personne était un membre de votre famille. Eh oui. Lorsque vous entendez que quelqu'un a besoin d'aide, si c'est dans vos moyens, allez l'aider. Pas en faisant de la trompette, non, en cachette. Car comme le Christ a dit, celui qui donne en cachette sera récompensé ouvertement. Mais faites les choses non pas pour sonner de la trompette, non, mais pour être vu de l'homme, de Dieu, car, rappelez-vous, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prenons un autre exemple d'une veuve. Vous en avez beaucoup dans la Bible. Celle-ci, vous remarquerez une chose. Ces personnes-là ont agi ainsi, non pas parce qu'elles voulaient être récompensées, elles ont agi ainsi, et ce faisant, elles ont été récompensées. Il y a une différence. Vous faites quelque chose non pas pour être récompensé, mais ce faisant, vous êtes récompensé. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais Actes chapitre 2, non, chapitre 9, là, peut-être vous comprendrez. Actes 9, vous avez l'exemple d'une autre veuve. La Bible parle des veuves, vous savez. La Bible dit que nous devons aider les veuves en toutes circonstances. Et pourtant, souvent, ce sont des veuves qui nous aident par leur exemple. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples du Christ, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Donc, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et cette femme, Dorcas, donc, elle tomba malade, c'est une de ses veuves, en ce temps-là, et mourut. Bon, ça arrive à tout le monde, âgée, travaillée, elle mourut, elle est morte. Après l'avoir donc lavée, déposée dans une chambre haute, comme Lydie était près de Joppé, les disciples du Christ, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers Pierre pour le prier de venir chez eux sans tarder. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Mais peut-être ils attendaient à ce que Pierre fasse un miracle, je ne sais pas. De toute façon, ils demandent à Pierre de venir. Et Pierre se lève avec les hommes. Lorsqu'il fut verset 39, lorsqu'il fut entré, dit-il, on le conduisait dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Regardez maintenant, merveilleux. Voilà l'exemple. C'est une veuve qui vient de mourir. Et les autres veuves, au lieu d'être jalouses, au lieu de penser avoir des pensées négatives, mais tout ensemble, elles louent cette Dorcas qui est morte. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent à Pierre les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore en vie. Pourquoi est-ce que Dorcas a fait ça? Est-ce que, parce qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait servir. Elle faisait des choses pour les autres, afin que les autres aient de quoi s'habiller, ainsi de suite. Donc, ils ont montré à Pierre tout cela, verset 40. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il fit sortir tout le monde. Là, c'est un autre exemple important. Souvent, Et ça, c'est, ça arrive dans le ministère. Lorsque vous devez prier pour quelqu'un, pour une chose grave, vous voulez être sûr qu'il n'y a pas autour de vous des gens qui doutent. Que soyez ou bien seul, ou bien soyez avec des gens qui sont pleins de foi, proches de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de, d'esprit de doute, de scepticisme dans, à vos côtés. Donc Pierre fait sortir tout le monde. Parce qu'il va arriver, il va faire quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Il va ressusciter cette femme. Donc il n'y a pas de place pour les doutes ici. Voilà pourquoi il fait sortir tout le monde. Il se met à genoux et se tournant vers verset 40, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Regarde-moi cette foi. Voilà pourquoi il a fait sortir tout le monde. Parce que ce genre de foi demande extrêmement de conversion, de courage, de foi et de certitude. Et il ne peut pas tolérer qu'il y a autour de lui des gens qui diraient, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non? Pierre voulait être seul. Donc, il a donné cet ordre. Aussitôt, Dorcas ouvrit les yeux. Elle voit Pierre, elle s'assit. Pierre lui donna la main, elle la fit lever, et il appelait ensuite les autres saints et les veuves. Voyez-vous, là c'est intéressant, les saints et les veuves. C'est quoi les saints? Beaucoup de gens ne savent pas qu'un saint, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui est membre du corps du Christ. C'est ça les saints. Les saints ne sont pas ceux qui sont soi-disant au ciel. Tous ceux, vous, moi, qui avons reçu l'Esprit de Dieu après notre repentance, après notre baptême, après l'imposition des mains, nous sommes, entre guillemets, des saints. Nous devons marcher dans la sainteté. Donc, Pierre appelle les autres membres de l'Église, les veuves, et il leur présente Dorcas. La question que je vous pose, Dorcas, ou Tabitha, elle savait qu'un jour, elle, de par ses actions, elle serait ainsi récompensée? Non. Elle n'avait aucune idée. Pour elle, elle faisait un travail, elle voulait servir. Et pourtant, par cette attitude de servir, voilà qu'elle a gagné la vie physique, elle a retourné. Il est retourné dans la vie physique en tant que récompense. Ce sont des exemples fantastiques. Souvent, nous ne nous rendons pas compte, mais si même personne ne voit, Dieu voit. Je dis toujours, lorsque je conseille aux gens, les gens disent, écoutez, personne ne m'apprécie, mais si, Dieu vous apprécie. Si vous faites votre part, si Dieu vous apprécie, c'est tout ce qui compte. On n'a pas besoin qu'on sonne de la trompette autour de vous. On n'a pas besoin que les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'il est bien !» Non, ce n'est pas nécessaire. S'ils le font, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, sachez qu'il y a quelqu'un, et c'est ça qui compte, qui voit et qui apprécie. Ici, Dorcas, voyez-vous, elle a fait ça parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et Dieu l'a apprécié, et voilà le résultat. Qu'est-ce que peuvent encore faire les veuves? Maintenant, je vais terminer avec ça parce que les autres exemples, je donnerai la prochaine fois. Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple. Non pas seulement les veuves, mais nous tous. Nous avons tous, au sein de l'Église, dans la société même, des responsabilités. Dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Voilà comment l'apôtre Paul recommande à Tite de servir. C'est une façon de servir. Nous devons tous savoir comment servir, quels que soient nos talents, quelles que soient nos capacités. Et prenez le temps, vraiment prenez le temps d'étudier sérieusement ce petit chapitre. C'est un petit chapitre, Tite, chapitre 2. Paul donne des recommandations aux vieillards, aux jeunes, aux femmes, aux hommes. Et tout ce que vous voulez, regardez voir comme elle dit. Je ne veux pas prendre mon temps à expliquer tout, mais vous comprendrez. Il dit par exemple, le chapitre 2, Pour toi, dit-il, dis les choses, verse 1, qui sont conformes à la sainte doctrine. La sainte doctrine qui sort selon la Bible dit que les vieillards, les personnes âgées, doivent être sombres, honnêtes, modérés, dans la foi, dans la charité, dans la patience. J'ai dit, je ne vais pas expliquer, mais vous pouvez voir. Voilà votre attitude. Si vous faites cela, vous êtes des serviteurs utiles. Quelles que soient les circonstances, vous devez montrer honnêteté, modération, et amour, patience, voilà. Vous êtes déjà dans la bonne voie, vous êtes un serviteur utile. Dites aux femmes âgées qu'elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est pas seulement pour les femmes âgées, mais autrement dit, il y a un principe. Si ce principe s'applique aux femmes âgées ou aux hommes, c'est le principe existe. Donc, il montre ici Paul les points faibles à la rigueur, mais il dit qu'il faut que ces femmes âgées doivent être modérées, ne pas donner aux accès de vin, etc., parce qu'il y a cette tendance, qu'elles doivent donner de bonnes instructions et dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Voyez-vous, voilà un service que ces personnes peuvent rendre. Ce sont des serviteurs, pour ainsi dire. Donc, ne dites pas « je ne peux rien faire ». Non, Paul dit « ben, vous êtes une femme âgée, tout ça, voilà ce que vous pouvez faire. Dites aux autres, aux jeunes, comment être une bonne femme, une bonne maman, ainsi de suite, sobre. » Ensuite, il dit la même chose en ce qui concerne les hommes. Exhorte-t-il de même les jeunes gens ? Bon, vous êtes jeunes, vous êtes pleins de force, d'accord. Mais là encore, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. À être modéré, faire de bonnes œuvres, etc. Parce qu'il y a toujours Satan qui va vous tenter, ainsi de suite. Et plus un peu plus loin, verset 9, comme je dis, je ne vais pas prendre mon temps parce qu'il faut que je m'arrête ici, mais prenez le temps de lire ce chapitre. Exhorte, verset 9, les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, toujours en Christ, en n'être point contredisant, en ne rien vouloir dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honneur en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Comprenez-vous? Dans cette seule phrase, Paul vous montre comment être vraiment chrétien, quelles que soient les circonstances. Que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez femme ou homme, que vous soyez marié ou non. Voilà le principe. Prenez le temps à genoux, lisez cela. Vous savez où vous allez, si vous êtes âgé ou femme ou homme. Dites, Dieu, aide-moi à comprendre ce que je viens de lire. Aide-moi à mettre en pratique. Aide-moi à être un bon serviteur. Aide-moi vraiment à te plaire dans tout ce que je fais. Car je veux te servir. Car lorsque vous servez ainsi, vous pouvez avoir de la garantie absolue que le Christ vous dira, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je vais reprendre ce sujet la prochaine fois. Je vais continuer à donner des exemples. Mais entre-temps, réfléchissez et mettez vraiment dans votre esprit, dans votre tête, cette belle phrase du Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.